Elle et l'ONU.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde.
Moment très symbolique aujourd'hui au siège des Nations Unies où le drapeau de la Palestine doit être hissé pour la première fois. L'image, même si ce n'est qu'une image, restera à coup sûr car elle marque un pas de plus dans le jeu diplomatique engagé par les Palestiniens qui ont obtenu déjà le statut d'État non membre à l'ONU, le même statut que le Vatican. Mahmoud Abbas disant il y a quelques minutes à la tribune de l'ONU que la Palestine mérite d'être reconnue en tant qu'État à part entière à l'intérieur même de l'Organisation des Nations Unies. Et maintenant, la question est toujours aussi vaste et indécise. Gaza et la Cisjordanie sont sous tension. Des affrontements réguliers se déroulent autour de l'esplanade des mosquées. La lutte contre l'organisation État islamique relègue très loin dans la liste des urgences internationales le processus de paix palestinien. Voilà où l'on en est et où démarre notre dialogue ce soir avec deux diplomates. Majed Bamia, que je salue, bonsoir.
Bonsoir.
Diplomate palestinien, vous êtes en direct et depuis Ramallah, en Cisjordanie. Nissim Tzfili, que je salue également. Bonsoir, monsieur l'ancien ambassadeur d'Israël en France.
Bonsoir.
Vous êtes en direct d'Israël. Majed Bamia, Mahmoud Abbas est en train de s'exprimer en ce moment même à la tribune des Nations Unies. Mais un mot sur vos couleurs, les couleurs palestiniennes, hissées dans quelques instants aux côtés des 193 autres drapeaux des pays membres. C'est un jour particulier pour vous, une image forte?
Un jour très particulier. Nous avions disparu de la géographie et nous avions failli disparaître de l'histoire il y a 70 ans maintenant. Et maintenant, nous pouvons lever notre drapeau auprès des autres nations du monde. Le rêve ne sera complet que le jour où nous pourrons lever ce drapeau à Jérusalem, qui sera la capitale de la Palestine, la capitale de la paix, partagée et dans notre État indépendant. Mais c'est un pas très important vers la reconnaissance de la Palestine sur la scène internationale.
Majed Bamia, c'est le maximum que vous pouvez espérer et obtenir pour l'instant, aujourd'hui, au moment où nous parlons, ce moment symbolique, ces couleurs hissées à l'ONU à New York?
Et il faut comprendre qu'il n'y a pas très longtemps, ce drapeau, si on le levait sur la terre de Palestine, on pouvait être emprisonné par la puissance occupante. Aujourd'hui, il flotte sur beaucoup des villes palestiniennes. Certains disent qu'il serait impossible qu'il flotte au-dessus de l'ONU avec les autres drapeaux. Et pour nous, c'est un pas de plus, mais ça n'est pas ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est l'indépendance effective. Ce que les Palestiniens attendent, c'est la liberté réelle. Mais ce qu'ils voient, c'est que beaucoup à travers le monde soutiennent la liberté à travers ce geste qui doit amener vers une reconnaissance effective et vers l'occupation.
Nissim Tzfili, je rappelais à l'instant que vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France. Comment vous la voyez-vous, cette image du drapeau palestinien à l'ONU? Israël a voté contre le fait qu'on puisse hisser les couleurs palestiniennes.
Je comprends très bien le très fort sentiment que ressentent une grande majorité des Palestiniens qui vivent dans la Cisjordanie, dans la bande de Gaza, un peu partout dans les pays arabes, en Israël. Mais je crois qu'on est en train de vivre un paradoxe très fort entre le drapeau de Palestine qui va être relevé dans quelques minutes à l'ONU et le discours de Mahmoud Abbas. Le discours du président de l'autorité palestinienne, c'est un discours de frustration, c'est un discours de désespoir, c'est un dernier appel à la communauté internationale de faire quelque chose pour changer la situation. Et quand on voit d'un côté le drapeau palestinien à l'ONU et de l'autre côté un discours qui est presque un discours de défaite, qui dit je suis arrivé à un point dans lequel je reconnais que ni notre pression, ni nos relations, les relations internationales qu'on a créées avec des dizaines et des centaines de pays dans le monde ont réussi à amener une vraie solution au conflit israélo-palestinien.
Monsieur l'ambassadeur,
il y a un drapeau, il y aura un drapeau, mais il n'y a pas d'État palestinien indépendant, et je crois que c'est un échec de la communauté internationale, c'est un échec de l'État d'Israël, et c'est aussi un échec de l'autorité palestinienne.
J'ai l'impression que l'accablement et le désenchantement que vous prêtez au président Abbas, vous l'éprouvez vous-même, Nissim Tzfili, diplomate israélien.
Oui, je partage complètement, mais vraiment, je le sens exactement. J'ai rencontré le président de l'autorité palestinienne la semaine dernière avec trois autres ambassadeurs, anciens ambassadeurs d'Israël à Paris. J'ai ressenti ce désespoir, j'ai ressenti cette frustration, je les partage, mais vraiment, du foin, de tout ce que je ressens, c'est exactement ce qu'il ressent. C'est surtout, pour moi, c'est une déception énorme, d'abord de mon pays, parce que c'est dans l'intérêt de l'État d'Israël et de la société israélienne de permettre la création d'un État palestinien indépendant aux côtés d'État palestinien pour essayer de prévenir un avenir qui risque de mener à un État binational qui va être une catastrophe pour l'avenir de l'État d'Israël. Ça veut dire que quand je vois les résultats de tout ce qui se passe dans la communauté internationale, les résultats de tous les efforts qui ont été faits par Obama, par son équipe, et je vois les résultats après des années, je comprends pas comment on peut vivre encore dans une situation dans laquelle, depuis 1967, ça fait déjà 55 ans, je crois, ou 45 ans, pardon, on continue à occuper un autre pays, on continue des territoires, on continue à dominer un autre peuple. Et pour moi, je crois que c'est la plus grande catastrophe qui est arrivée à l'État d'Israël, surtout depuis l'assassinat d'Yitzhak Rabin.
Majed Bamia, comment prenez-vous ce que Nissim Tzfili vient de décrire à l'instant comme un paradoxe? Effectivement, les couleurs de la Palestine à New York, à côté des autres drapeaux de l'État membre, et en même temps un président Abbas affaibli de fait et au bout, en quelque sorte, de tout ce qu'il a tenté.
Et Oslo et les accords de paix d'Oslo devaient durer 5 ans. Nous avons attendu 20 ans et l'État palestinien n'est toujours pas venu. Le nombre de colons était à 100 000 au moment où nous avons signé ces accords de paix. Aujourd'hui, ils sont 650 000. Jérusalem n'a pas subi d'attaque comme celle qu'on est en train de connaître depuis maintenant 10 ans. Une attaque terrible de colons, de soldats, entrée sur les lieux saints, démolition de maisons, colonisation, le siège de la bande de Gaza au cours de ces 7 dernières années. Les raisons du désespoir sont énormes. L'action de la communauté internationale est quasiment inexistante. Nous avons soutenu les résolutions internationales justes et injustes, toute initiative de paix arabe, initiative française. Nous étions prêts à tout ce qui aurait pu mener à l'État palestinien à travers les négociations de paix. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est pas que nous allons abandonner la lutte, c'est pas que nous renonçons à la liberté, c'est pas que nous allons juste plier bagages. Nous sommes sur notre terre où nous comptons vivre en liberté et en dignité. Nous sommes 11 millions de Palestiniens qui cherchons un destin. Nous n'allons pas disparaître demain. Ce que nous disons, c'est qu'on ne peut pas nous faire porter la responsabilité seule d'arriver à la paix. C'est qu'il y a une puissance occupante. Il faut qu'elle mette fin à son occupation et qu'elle assume ses responsabilités. Pendant très longtemps, cela lui a été épargné. Pendant très longtemps, nous avions, nous, eu à assumer les responsabilités pendant qu'Israël jouissait de l'impunité. Il faut que cela cesse. C'est cela le message du président Abbas. Mais je vous dis, notre liberté demeure inéluctable. Nous n'allons pas accepter cette occupation. Vous regardez hier et aujourd'hui les manifestations contre cette occupation. Le peuple palestinien est déçu, mais il n'est nullement résigné.
Alors précisément, allons sur place où c'est tout de même l'enlisement, un enlisement chaud si j'ose dire, un enlisement parfois violent. Bonsoir Étienne Monin.
Bonsoir.
Vous êtes le correspondant de France Inter à Jérusalem. Enlisement donc et tension palpable à Gaza et en Cisjordanie. Hein.
Et ce qu'on sent derrière cette tension, c'est un profond sentiment de frustration et un rejet aujourd'hui de la politique de Mahmoud Abbas basée sur le refus de la violence et sur les négociations. Quand on visite certains camps de réfugiés ou quand on interroge des responsables de l'OLP. On entend que l'autorité palestinienne est allée donc au bout de sa politique, qu'elle est maintenant dans une impasse et que les gens sur le terrain concrètement attendent une porte de sortie. La légitimité de Mahmoud Abbas repose sur les résultats. Or, il n'y a ni avancée sur la paix, ni négociation, ni soutien affiché de la communauté internationale, ni processus politique en interne pour régénérer l'appareil politique. Les Palestiniens se sentent piégés finalement par le processus d'Oslo. Il est accusé de normaliser, d'installer l'occupation sans offrir de débouchés. Si la cote de popularité de Mahmoud Abbas est si faible aujourd'hui en Palestine, c'est notamment parce qu'il est aussi accusé en interne par certains d'être l'instrument de ce statu quo, en utilisant ses forces de sécurité pour contenir la violence interne, finalement au profit de la puissance occupante.
Majed Bamia en disait un mot à l'instant. Étienne, parlez-nous de ces affrontements presque quotidiens depuis 3 semaines autour de l'esplanade des mosquées. Étienne ?
Oui, c'est finalement plus un symbole qu'un affrontement d'une grande intensité, on va dire. Ça n'est pas massif, mais c'est le symbole de ce qui se joue en ce moment. Schématiquement, les Palestiniens ont le sentiment qu'Israël tente de diviser l'endroit en l'ouvrant plus largement aux fidèles juifs, pour lesquels c'est aussi un lieu sacré. C'est le symbole du refus de cette dépossession dans ce qu'il y a de plus sacré, de plus important, mais c'est aussi l'utilisation de l'outil de la résistance contre une mouvance israélienne nationaliste, soupçonné d'être soutenu par le gouvernement, même si Benjamin Netanyahou se défend de vouloir changer quoi que ce soit dans l'accès à ce lieu saint. Et donc il y a beaucoup des ingrédients du conflit finalement qui se jouent et du rapport de force autour de cet endroit.
Étienne, dernière question, est-ce que le mot intifada est prononcé? Est-ce qu'il est dans toutes les têtes?
Pour l'instant, ce qu'on entend, c'est plutôt le mot résistance, changer de politique, rajouter la résistance aux politiques, à la discussion, à la négociation pour essayer d'obtenir quelque chose. Le sentiment ici, c'est que vraiment les choses sont bouchées et certains disent encore qu'ils espèrent sur le terrain la solution à deux États. Mais honnêtement, il y a du côté des Palestiniens aujourd'hui de moins en moins d'espoir porté sur cette possibilité, celle d'obtenir aujourd'hui la solution à deux États.
Étienne Monin, correspondant de France Inter à Jérusalem en direct avec nous. Vous la redoutez, Nissim Tzvili, cette nouvelle intifada dont on ne parle pas encore, même si on a pu entendre le mot ici et là prononcé?
Vous savez, je crois que c'est une très grave erreur d'essayer de concentrer maintenant l'intention ou l'attention internationale sur ce qui se passe à Jérusalem ou sur le mont du Temple. Ce n'est pas le vrai problème. Le vrai problème de profondeur, c'est que ce qu'a mentionné votre reporter à Jérusalem, c'est que dans les deux peuples, il y a une perte de confiance complète dans la possibilité d'arriver à un accord politique qui permettra la création de deux États-nations. C'est ça le problème. Et vous savez, les deux sociétés arrivent à la même conclusion avec une analyse complètement différente. Ce que je crains le plus, ce qui me fait vraiment peur, c'est qu'aujourd'hui, il commence à y avoir une majorité au sein de la société palestinienne, et pas seulement de la société palestinienne, mais des pays arabes dans le monde entier, qu'on ne peut pas arriver à un accord politique qui permet la création d'un État palestinien. Alors c'est pour ça qu'il faut patienter. Ils ont le temps. On va devenir un État binational. Dans une génération, deux générations, il y aura une majorité arabe, musulmane et chrétienne sur ce territoire entre le Jourdain et la Méditerranée. Et quand il y aura cette majorité, ce que demandera le peuple palestinien, c'est pas un État palestinien indépendant. C'est le droit de vote, le droit démocratique à l'ONU. Ça veut dire, et de l'autre côté, ce qui est le plus surprenant, c'est qu'il y a une minorité croissante, un courant qui s'amplifie dans la société israélienne qui dit, vous savez quoi, c'est pas tellement mal. Regardez comment on vit maintenant. On n'a presque pas de problème, ok, de temps en temps, on nous lance des
roquettes ou des pierres.
De temps en temps, il y a des roquettes, mais en fin de compte, notre situation économique est très bonne. On continue à dominer un autre peuple et leur réaction est très faible. Il n'y a pas vraiment des réactions qui font ressentir la population israélienne qu'on a un vrai problème. Vous savez quoi ? On va s'arranger, on va s'adapter à cette nouvelle situation, on va vivre avec ça, on va devenir peut-être comme M. Yitzhak Rabin avait dit il y a 20 ans de ça. Il avait dit qu'on risque de devenir un état d'apartheid. l'État d'Israël doit choisir entre la démocratie et l'occupation. Ça marche pas ensemble. Ça peut pas marcher ensemble. Ça peut marcher pour 5 ans, pour 10 ans.
Mais pas pour l'éternité. Mais pas pour l'éternité. On a bien compris la portée de votre analyse, Nissim Zvili. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France. Majed Bamia, diplomate palestinien en ligne avec nous depuis Ramallah. Le président Abbas vient de déclarer à l'ONU que les Palestiniens ne sont plus liés par les accords s'ils ne sont pas respectés. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il faut comprendre exactement par là ?
Il faut comprendre que vous aviez une période intérimaire qui devait mener à l'État. Et Israël a utilisé cette période intérimaire pour renforcer sa colonisation et son occupation. Et nous ne voulons pas lui permettre d'instrumentaliser notre sens des responsabilités pour faire préserver cette occupation. Mais je voudrais vous dire, vous savez... Les diplomates israéliens, quand ils sont en poste, défendent cette occupation, ou quand ils ne sont plus en poste, beaucoup la dénoncent. Les chefs des services de sécurité de l'occupation sont des instruments de cette occupation. Puis une fois hors de leur poste, ils avouent que cette oppression et cette occupation ne peut pas durer. Je crois que c'est une vérité que la société israélienne connaît au plus profond d'elle-même. Mais il faudrait que la communauté internationale mette un miroir pour que Israël puisse se refléter dans le visage de cette occupation et qu'elle prenne des mesures. Beaucoup disent que les sanctions contre l'Iran, qu'on soit d'accord ou pas, ont beaucoup aidé les négociations. Beaucoup disent que les sanctions à travers le monde, c'est quelque chose qui est acceptable et responsable. Ce n'est que dans le cas d'Israël qu'on dit qu'il n'y a que la négociation qui peut fonctionner.
Clairement, Majed Bamia, des sanctions à l'égard d'Israël, hein.
Je vous dis, un dialogue entre une puissance occupante qui n'a pas décidé de mettre fin à son occupation et un peuple sous occupation n'a aucun sens. Sans pression internationale, sans mesure, que ce soit la société civile ou que ce soit au niveau des États, même les autres instruments du droit international sont beaucoup plus faibles que les mesures que peuvent prendre les États. Je dis que ce que le monde fait ailleurs, Israël ne peut pas demeurer l'exception pour le bien de tous les peuples de la région, y compris les Israéliens. Et je pense que c'est le message que vous entendez des deux bords. À cet instant. Je crois que les gens sous-estiment à quel point les Palestiniens ont le courage nécessaire pour continuer la lutte pour leur liberté, mais nous voulons le faire par des moyens pacifiques. Nous avons appelé le monde au cours des dernières décennies à nous aider à le faire. Nous sommes profondément déçus par ce monde qui n'a pas réussi à le faire. Nous sommes encore prêts à envisager toutes les options qui pourraient permettre la liberté, mais ce que nous ne sommes pas prêts à faire, c'est d'accepter l'occupation et de capituler pour elle. Ouais. C'est soit l'occupation, soit la paix, soit l'occupation, soit la paix. Il faut que le monde choisisse. C'est notre liberté qui mènera à la paix.
Eh bien, merci en tout cas, messieurs les diplomates. Majed Bamia, palestinien à Ramallah, en direct avec nous. Nissim Tzfili, en Israël, ancien ambassadeur d'Israël en France. Merci également à Étienne Monin, le correspondant de France Inter à Jérusalem. Un jour dans le monde continue dans le 18-20 de France Inter. Il est 18h.